nous avons aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir Yann Moulier-Boutan et Antoine Remiscoul. Ils nous ont déjà donné une conférence tout à fait décapante hier soir. On en a d'ailleurs encore des cernes sous les yeux. On a terminé aux petites heures. Alors, ils vont nous parler du capitalisme cognitif que Yann nous a présenté dans les grandes lignes avec Antoine hier soir. Mais ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est vraiment questionner les business models dans une économie sans rareté. C'est fondamentalement ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, pour vous présenter nos orateurs très rapidement, Antoine est philosophe, il a été professeur de philosophie, mais il a très rapidement bifurqué vers l'entreprise pour travailler tout d'abord pour LVMH, dans tout ce qui était valorisation de marque, pour ensuite passer par toute une série d'aventures en termes de conseils, où il a travaillé pour les plus grandes boîtes françaises.
Quelques-unes,
essentiellement dans tout ce qui touche le goodwill, donc la valorisation des biens immatériels. Il a travaillé entre autres également comme consultant pour Publicis.
Et il est comme salarié.
Comme salarié. Et là maintenant, il relance une nouvelle société de conseil, toujours dans ce domaine, valorisation des actifs immatériels en particulier, mais ça va plus loin que cela également. Et qui s'appelle Acte 6.
Voilà, qui est en démarrage.
Qui est en plein démarrage.
Et puis par ailleurs, j'enseigne un petit peu à l'ESSEC, donc une école de management près de Paris, et puis à l'Institut français de la mode, qui est un lieu de formation au métier de la mode, de la création à Paris.
Tout à fait. Voilà. Alors, Yann, lui, est économiste. Et il a déjà à son actif toute une série de livres tout à fait passionnants, dont l'un des derniers en date est le capitalisme cognitif, la grande transformation. Et il va publier le 7 mai, si je ne m'abuse, le 7 mai de cette année, un nouveau livre qui s'appelle L'abeille et l'économiste. Ou l'économie, je ne sais plus.
Non, l'abeille et l'économiste.
Et l'économiste, dont il nous parlera sûrement au travers de cet exposé. Alors, Yann, en fait, est également professeur à l'Université de Compiègne. On forme essentiellement des ingénieurs. Il enseigne des matières telles que l'économie politique, tout ce qui touche au numérique et, bien évidemment, tout ce qui touche autour de la propriété intellectuelle et de ses transformations. Il enseigne également à l'ESAD, à Saint-Étienne,
l'Institut supérieur d'art et design.
Voilà, exactement.
La plus vieille école de ce type française, créée en 1857.
Il a enseigné également longtemps aux États-Unis pour le centre Fernand Braudel. Et je dirais que la question qu'il a animée jusqu'ici et qu'il continue d'animer, c'est d'analyser les transformations du capitalisme. Alors, on s'est mis d'accord d'ailleurs pour que je ne demande pas à Yann de faire un bref résumé de ce qu'il a présenté hier, parce que si je le lance, vous allez voir, c'est la Ferrari qui démarre, qui est en 2 secondes à 1200 à l'heure. Et il tient la distance pendant très longtemps.
Ouais.
Donc je vais vous dire en quelques mots, vraiment en quelques mots,
ce que t'en as retenu.
Ce que j'en ai retenu. Alors, il y a tellement de choses, je ne vais pas m'étendre, mais je voudrais quand même vous dire ceci. Voilà. Prenons simplement l'exemple de Google. Google est valorisé aujourd'hui à 180 milliards.
Bon, alors, comme ça, on peut tout de suite.
Ah bah, oui. Voilà. Ah bah. Je vous laisse la parole, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça.
C'était concis.
Bon, le principe, si vous voulez, ce qu'on s'était dit avec Laurent, c'est qu'on va essayer de dialoguer un peu, Yann et moi, mais évidemment, ce qui est sympathique, c'est que là, on peut tous interagir aussi. Il se trouve qu'avec Yann, on dialogue ensemble depuis quelques années, on s'est rencontrés il y a quelques années. Moi, je lisais un peu ce que Yann faisait, et j'étais dans le monde un peu des entreprises, comme vous. Et en le lisant, j'étais étonné par l'acuité de ce qu'il disait. C'était la première fois que j'ai rencontré, j'ai dit c'est étonnant que on s'est tutoyé au bout d'un quart d'heure, mais que vous auprès de quelles entreprises vous expérimentez, vous allez voir, parce que c'est étonnant ce phénomène de... Voilà. Alors ensuite, on a continué à dialoguer autour des questions de ce que Yann appelle le capitalisme cognitif.
Bon. Les économistes ont en général le plus profond mérite pour les gestionnaires. Ils considèrent comme étant des choses appliquées, vulgaires, etc. Bon, l'ennui pour eux, c'est que l'essentiel des 20 problèmes nouveaux de l'économie surgissent justement dans le domaine de la gestion. C'est les gestionnaires qui mettent le doigt sur les questions théoriques fondamentales. Donc il n'y a pas à avoir, et moi la première chose que j'ai faite quand j'ai pris la direction de mon labo, c'est que j'ai réunifié immédiatement les gestionnaires, des économistes, des mathématiciens, d'autres gens, parce qu'autrement, on ne voit pas, on n'est plus sur la frontière des savoirs et là où les choses vont. Donc c'est pour dire que l'articulation question terrain et concept théorique complètement abstrait, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est vraiment
drôle. Rapproche-toi.
Donc on a organisé le propos un peu comme ça. Hein. On va un premier point qui concerne ce que j'ai appelé territoire. Hein. Territoire, c'était au sens à la fois très concret, puis la question du périmètre. Hein. Par exemple, du périmètre d'une entreprise. Hein. Quel est son périmètre? Qu'est-ce qui est dans l'entreprise? Qu'est-ce qui est hors de l'entreprise? Ouais, bon, alors, zut.
Il a...
Si, si, mais j'y arrive. Voilà. Parce que c'est le premier slide des questions de territoire. Bon. Alors, on commence par un fait qu'on a évoqué hier. Donc, effectivement, au cours d'aujourd'hui, enfin, au cours d'hier, la capitalisation boursière de Google, hein, c'est la valeur de l'ensemble des actions de Google en circulation, c'est 180 milliards de dollars. Donc 180 milliards de dollars, ça fait un peu moins de la moitié de ce qu'est la première capitalisation mondiale qui est encore, je crois, aujourd'hui Exxon, hein, qui est le grand groupe américain pétrolier, qui est à peu près à 400 milliards. Hein. Donc c'est moins, mais c'est presque la moitié quand même. Mais c'est pas tellement ça qui est intéressant, c'est un truc tout simple, c'est il y a combien de salariés dedans, c'est ce qu'on disait hier. Bon, il y a 18 000 salariés. Alors, 18 000 salariés pour une capitalisation boursière pareille, c'est un peu comme s'il y avait un salarié. C'est très peu, 18 000. Enfin, je pense qu'on trouve que c'est dans les grandes entreprises. Je ne sais pas, moi, par exemple, Publicis, pour qui je travaillais, c'était 50 000 salariés, quoi. Hein, les VMH, c'était 60 000 salariés. Bon. Et encore, ce n'est pas des énormes groupes. Évidemment, si on prend un autre extrême, qui est General Motors, qui est aujourd'hui une capitalisation boursière qui est nulle, hein, par définition, il y a encore 320 000 salariés directs, hein, sans compter les emplois indirects. Alors, la seule question vraiment intéressante, en fait, c'est de se demander il y a combien de salariés indirects de Google, hein, c'est ça. Il y a combien de salariés indirects? Et là, en un sens, c'est en train de devenir, bon, tous les terriens, quoi, un peu. Hein, puisque c'est vraiment un modèle d'entreprise qui est paradigmatique, parce que c'est une entreprise qui tend à se confondre avec l'ensemble d'Internet. L'expérience qu'on en fait chacun, c'est que en utilisant Google ou les fonctionnalités de Google, en même temps, on concourt à l'augmentation de l'effet de réseau et puis à l'amélioration des différents rankings de recherche des mots-clés ou des concepts ou des images ou des vidéos, etc., qui passent par Google. Donc on se retrouve avec ce paradoxe-là. Alors, si vous voulez, c'est un peu le cœur du sujet, c'est un peu ça, c'est que dans les représentations qu'on a de ce qu'est le périmètre d'une entreprise, notamment les représentations politiques, quoi, hein, souvent on se représente les choses comme ça, c'est-à-dire il y a... une boîte, et puis il y a des choses qui rentrent, des inputs, il y a un savoir-faire et une productivité qui s'exercent, et puis il y a des choses qui sortent, des outputs. Et puis, on fait un ratio sur les outputs, sur les inputs, etc. Le problème, c'est qu'on est dans les faits, c'est plutôt cette représentation-là qui est la réalité de ce qu'est, une entreprise aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Mais vous voyez, la question de l'input, j'ai mis des pointillés, elle est de plus en plus compliquée à déterminer. Quand même, ça devient la question du territoire productif au sein duquel l'entreprise s'inscrit. Bon, alors, c'est vrai que c'est la grande mode en ce moment du développement des clusters, des pôles de compétitivité, de toutes les structures, de toutes les infrastructures qui permettent ce qu'on appelle maintenant en jargon la coopétition, c'est-à-dire cette espèce d'alliage, de tentative de synthèse entre la concurrence et la coopération. Bon, moi j'appartiens à un pôle de compétitivité français par exemple qui est Cap Digital. Vous savez, en France on a fait ça de façon administrative, ça c'est l'État qui a décidé où seraient les clusters, etc. à la française, quoi. Et c'est vrai que c'est assez étonnant puisque la R&D d'innovation, si vous voulez, qui traditionnellement est très secrète, très confidentielle, parce que c'est vraiment pour les entreprises industrielles, c'est vraiment le cœur de réacteur de la compétitivité, on la voit de plus en plus circuler, en fait. Circuler de façon quasiment publique. Hein, hors les murs, si vous voulez. Bon, vous savez qu'un pôle de compétitivité, comment ça marche, hein, ou un cluster, c'est en gros... Vous me dites si j'enfonce des portes ouvertes. Hein, il y a trois ingrédients. En général, il y a le monde académique, disons, qui se consacre plutôt au long terme, qui est pas dans des problèmes de conflit d'intérêts, etc. Il y a quelques majors... Bon, c'était HP dans la Silicon, au début de la Silicon Valley, par exemple, et puis quelques entreprises très innovantes qui vont mettre en innovation des choses plutôt académiques, très pointues, et puis avoir comme clients les grandes entreprises. Et cet écosystème, c'est ce qu'on pourrait appeler un territoire productif. Bon, mais c'est de façon beaucoup plus banale aussi. Si je dis une banalité, bon, si vous voulez faire une entreprise de mode, vous allez plutôt vous installer dans une métropole plutôt que dans le désert, quoi, hein, parce que vous allez essayer de profiter de toutes les externalités. On va revenir sur ce terme, on a beaucoup parlé hier.
Concrètement, vous allez vous inspirer de ce que vous voyez dans la rue, des écoles d'art avec les gens qui viennent pour éventuellement se faire embaucher, qui ont des Facebook gigantesques. C'est tout ce savoir qui s'accumule sur un territoire et qui se rencontre de la même façon que le fait que vous ayez tous les gens ensemble qui font les mêmes métiers, qui sont au même endroit, donne des plateformes. Ça peut paraître le contraire, hein, du point de vue de la concurrence, on doit se dire, mais c'est épouvantable, pourquoi ils tous se mettre les uns à côté des autres dans le même endroit? Et bien, c'est le contraire qui se passe parce qu'il y a des fertilisations et à ce moment-là, les gens viennent et les gens trouvent chaussures à leurs pieds à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est là où le luxe ne va pas se fuir les endroits de low cost. C'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce de continuum, et c'est évidemment la captation de ce continuum qui va donner la solidité des marchés qui vont pouvoir encaisser des coûts, parce que lors des différents aléas du revenu, les gens s'adaptent, etc. Donc ça, c'est très intéressant, parce qu'en réalité, c'est ce qu'on appelle les externalités métropolitaines. C'est le fait que les gens se regroupent, ça glutine et que ça crée des tas de passages.
Ce qui est vieux comme le monde. Hein, si vous êtes commerçant, hein, vous avez plutôt intérêt à vous installer dans une rue qui est déjà commerçante. Hein. Si vous êtes boulanger, vous avez plutôt intérêt à se lier à côté de votre boulangerie, à marchand de légumes, à pharmacien, etc. À supermarché, etc. Bon. Donc c'est vieux comme le monde, en quelque sorte, mais ça prend une ampleur. Quoi, hein, parce que ça concerne plus seulement la vie quotidienne des achats des petits commerces, quoi, mais en gros l'ensemble des innovations. Hein, c'est le même de rue commerçant. Bon, ce qu'on appelle un cluster. Donc du coup, ça rend la question de l'input un peu compliquée. Hein, parce que qu'est-ce qui est vraiment de l'ordre de l'input, hein, qu'est-ce qui est vraiment de l'ordre de la ressource que vous allez transformer,
hein. Peut-être un autre critère important, c'est l'imputabilité. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un endroit dans lequel vous ne pouvez pas imputer la création des facilités, des aménités pour l'ensemble des entreprises à une entreprise et dire « Ah, c'est elle qui en profite, c'est elle qui doit financer », là, vous rentrez, voyez, immédiatement dans la question de politique publique et de comment vous financez tout ça
Et finalement, vous avez quelque chose qui est que l'imputabilité devient globale. Elle concerne, au fond, c'est l'outcome, le résultat global, et pas simplement l'output qui compte, c'est l'input global et pas l'input maîtrisé par l'entreprise, contrôlé par elle, et sur lequel elle a des droits de propriété. On voit que ça, c'est très très important parce que, du coup, ça chamboule les concepts classiques de la frontière et du périmètre de l'entreprise.
Vous voyez cette différence entre un output et un outcome, en fait, c'est très simple. Un output, c'est un produit, disons, alors qu'un outcome, c'est un impact. Ça veut bien dire que c'est un impact produit. Mais ce qui compte, c'est davantage l'impact, la valeur de l'impact. Alors, je ne sais pas, c'est des problèmes de politique publique simples aussi. Bah, je vous donne des exemples. Moi, j'avais travaillé dessus à une époque, sur des exemples comme ça. Alors, quel est l'output, par exemple, des lycées français? C'est quoi l'output? L'output, c'est le nombre de bacheliers par an. Combien de lycées ça produit de bacheliers chaque année? Ça, c'est l'output. L'outcome, c'est pas ça. L'outcome, c'est le taux d'insertion dans les études supérieures et la vie professionnelle ensuite, et la vie citoyenne.
Et la classe politique.
Oui. C'est ça l'outcome. Et ce n'est pas du tout la même outil de mesure. Autre exemple simple, qu'est-ce que c'est l'output de la sécurité routière? C'est l'augmentation du nombre de contrôles routiers sur la route. C'est la capacité, là, en général, la puissance publique à organiser des contrôles routiers. Quoi. Ça, c'est l'output. Mais l'outcome, ce n'est pas ça. Hein. C'est la baisse. Espérons, la baisse du nombre de morts et blessés sur la route. Oui.
Bon. Alors évidemment, là, dans le monde des produits et des services, vous voyez bien que cette différence
entre l'output et l'outcome, elle est de plus en plus forte. Hein. C'est ce que dans le jargon, les gens appellent maintenant l'économie servicielle. Quoi. Hein. C'est une économie dans laquelle il y a, de façon agglomérée, à la fois des biens et des services qui sont vendus ensemble. Bon, alors c'est mieux comme le monde aussi, c'est les histoires de connaissance de partie, hein, par exemple, le contrat de conscience, tout ça, c'est vous vendre de l'électroménager, et puis toujours, vous vendre aussi tous les services d'après-vente, de maintenance, de paie,
etc. Et vous vendez une relation.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui se passe au milieu.
Hein. Vous voyez que l'entreprise, du coup, je n'ai pas mise en un carré comme une boîte, mais plutôt c'est une espèce de vecteur qui n'arrête pas d'essayer de faire un upgrade, donc dire, monter en compétence. Entre ces deux choses, si on a noté le territoire productif, et puis de l'autre côté, la route. Et cette montée en compétence, en un sens, c'est un peu la clé du problème de l'immatériel, hein, puisque c'est ça qui crée de la dématérialisation. C'est mon enjeu depuis 20 ans à peu près. Bon, j'étais producteur, je suis producteur de quelque chose. Mon problème, c'est de devenir assemblier de différents producteurs. Et puis j'étais assemblier de différents producteurs. Mon problème, c'est de devenir intégrateur de différents assembliers de différents. Et puis je suis assemblé, en fait c'est devenir intégrateur, etc. Donc, il y a une espèce, vous voyez, de monter en compétence sans cesse, avec un problème central sur lequel on va revenir, qui est le coût du capital engagé, hein, de la désimmobilisation que ça implique, et puis une espèce d'absence de bouclage des modèles économiques. À mon avis, il est censé de comprendre pour comprendre à la fois ce qu'est l'imaginaire en quelque sorte du capitalisme cognitif et puis les questions qu'on peut lui poser. Bon, alors je vais très vite parce que c'est un peu la même chose. Hein. Vous voyez, on est vraiment passé, moi, à mon avis, d'un monde qu'on pourrait présenter comme ça, une entreprise avec des employés à l'intérieur, des fournisseurs de qui sont vraiment à l'extérieur, et puis des clients qui sont vraiment à l'extérieur aussi. À ce qui est en bas, c'est-à-dire un monde qui est bien différent, mais qui est vraiment un autre. Avec un périmètre qui est vraiment pointillé. Avec des employés qui ne sont plus vraiment dedans. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux gens. Enfin, même quand ils sont salariés, ils pensent à leur employabilité. Ils ont abandonné l'idée d'une carrière dans la même entreprise. Bon. Ils l'ont vraiment abandonné. Donc ils sont à la fois un peu dedans, un peu dehors. Et puis ils sont beaucoup dehors aussi formellement. C'est ce que je disais hier. Je vais vous regarder avec Yann dans les chiffres français récents. Les créations d'entreprises et auto-entrepreneurs. Et quand vous additionnez les deux, vous arrivez à des chiffres absolument astronomiques pour l'année 2009, par exemple. Vous arrivez en France à 300 000 créations d'entreprises et il y a eu
400 000
auto-entrepreneurs. C'est le nouveau statut que vous avez créé. Donc vous arrivez à peu près 700 000 en même temps. Ce n'est pas les mêmes. Les 700 000 unités à l'échelle d'un pays comme la France en Allemagne, c'est considérable, c'est en moyenne, sachant que l'étalage français c'est 800 000. Chaque année, chez la France, il y a 800 000 Français. C'est vraiment beaucoup, 700 000.
J'ajouterais juste un point d'éclairage historique. Disons que le non-salariat, si vous voulez, c'est une chose qu'on observe dans la grande crise. Chaque fois qu'il y a une grande crise, 1890, enfin 1883, 1902 ou 3, et puis la crise des années 30, on a ce déclin en apparence de la relation salariale qui s'effrite avec des gens qui montent leur propre affaire pour au fond résister, se payer un revenu. Et tout de suite, juste deux minutes. Et bon, alors ça, c'est évidemment le petit péché mignon des cyclicistes. Qui vous disent oui, mais tout ça c'est de la frime, ça ne transforme pas, ça va revenir, dès que la conjoncture ira mieux, les gens vont revenir à des relations stables avec les entreprises, etc. Alors, vous voyez bien que depuis 1975, le marché du travail s'est transformé réellement. Ça veut dire que des choses qu'on avait crues temporaires et qui s'installaient et qui allaient ensuite disparaître, eh bien, n'ont pas disparu. C'est-à-dire que le marché du travail est devenu poreux, que la caractéristique de tas de gens maintenant, c'est je suis un bout dans le salariat ou un pied dans le salariat et un pied en dehors du salariat, ou une période, et puis j'en sors, et puis j'y rentre, et puis j'en sors, et puis j'y rentre. Donc une sorte, comme là, de perméabilité. Vous voyez, pour citer un exemple très simple, depuis 1975, il y a des très grandes entreprises qui ont pris à l'égard non seulement d'ouvriers qualifiés de leur propre staff, mais à l'égard de cadres importants de l'un, ils leur ont dit voilà, on t'externalise, on te garantit un certain volume de travail à l'extérieur, en échange de quoi tu vis ta propre vie à l'extérieur, et nous, les relations, ce n'est plus les relations de salariés et de dépendants, c'est les relations de marché. Bon, et ça, c'est même vrai, puisque Valeo, j'ai vu, moi, de mes yeux, Morin venir expliquer, au fond, son projet, qui est en acte, maintenant, il est parti, mais le projet est passé, c'est tout simplement qu'on va proposer à l'ensemble des usines du groupe en France trois possibilités pour les gens. Soit ils partent à la retraite, j'entends ouvrier cadre, un technicien, et même ingénieur, soit ils partent à la retraite, soit ils s'indépendantisent et ils deviennent des micro-sous-traitants avec un certain chiffre d'affaires garanti par an qui se négocie et qui est actuellement un tel et qui peut changer dans le futur. Soit ils deviennent, ils s'expatrient dans les usines du groupe pour devenir les seniors, les tuteurs ou les responsables de la mise à niveau des usines en Chine, en Tchéquie ou ailleurs. Et enfin, il ne reste plus en France que les unités de conception et avec des unités dans lesquelles le plus bas niveau de la hiérarchie, c'est l'ingénieur. Et l'upgrading consistant dans ce que les ingénieurs deviennent stratèges, c'est-à-dire une partie des ingénieurs monte à un niveau au fur et à mesure que l'ingénieur banal et standard, la Chine en produit par an autant que le reste du monde, eh bien, il faut requalifier les ingénieurs de l'entreprise. Donc vous voyez, c'est un mouvement extrêmement important de transformation à l'interne de la relation salariale qui n'est pas simplement la fuite vers le secteur abrité du pseudo-abrité du petit commerce ou du travail pour son compte. Donc là, je pense qu'il y a une transformation
structurale. Bon.
En fait, le professeur Guetta nous a expliqué ici d'ailleurs que les notions de job et de carrière sont des notions qui ont été inventées pour les besoins d'introduction industrielle.
Oui.
Et que ce temps-là est terminé et que les jobs vont partir, vont revenir, ces notions vont disparaître pour un titre qu'elles sont apparues.
On va sûrement aller beaucoup plus dans un système de contribution, comme le monde d'hier, que de métier ou de job. Alors évidemment, le problème, c'est que.
C'est une transition qui est un peu compliquée. Quoi. Bon.
Vous le voyez aussi, dans les présentations de l'emploi, hein, un truc peut-être tout bête à dire, mais les présentations sont dures entre d'un côté le fait d'être en emploi et de l'autre côté le fait d'être au chômage, de façon binaire, vous savez, comme le 1-0 du codage, quoi. Vous êtes soit dedans, soit dehors. Bon, pas du tout. Maintenant, vous voyez bien cet immense continuum très complexe qui s'est créé entre le chômage de masse, avec des gens qui sont même hors du chômage,
qui ont même renoncé à être chômeurs, bon, qui sont carrément exclus, quoi.
Des gens qui sont chômeurs de longue durée, des gens qui sont chômeurs intermittents, des gens qui sont intérimaires, des gens qui sont en CDD, des gens qui sont freelance, soit choisis, soit subis. En général, c'est des freelances, c'est un peu l'un ou l'autre.
C'est-à-dire, soit c'est des stars qui se mettent à capitaliser sur leur propre tête, plutôt qu'à être salariés, exploité comme salariés, soit des gens qui n'ont pas le choix et qui subissent en quelque sorte le statut de freelance. C'est un peu l'un ou l'autre. Voilà. Et puis, y compris à l'intérieur du salariat,
je n'en reviens pas, mais la relation salariale se déroule du tout sur le mode d'une pérennité.
Bon. Peut-être.
Ultérieurement. Sinon, il va se.
J'en profite, mais sur la question justement des intermittents du spectacle. Moi, j'ai dirigé la grande enquête qu'on a fait à la demande de la Coordination nationale des intermittents il y a 2004, et on a eu des éléments extrêmement intéressants sur la formation du revenu, le temps. C'est un questionnaire très lourd de 147 questions qui avait 7 heures de passation et qui a ramassé une information fabuleuse qui a d'ailleurs été partiellement, qui est disponible sur le web. Si vous voulez, vous allez aussi de la coordination et vous trouvez le rapport, puis il y a eu 2 livres qui ont été faits. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit de quoi ? Que la condition d'intermittent, qui est tellement spécifique en apparence, hein, puisque le spectacle vivant, les acteurs et tout ça, tout le monde se dit, mais c'est un monde qui est complètement différent du reste. Bah, on s'aperçoit que, par exemple, dans ce monde, la compréhension de ce qu'est le temps de travail, le temps de préparation, le temps d'exécution du travail, le chômage, le loisir, est complètement différent, et la notion d'employeur. Par exemple, pour les intermittents, il est clair que le temps de l'exécution de la performance n'est qu'un tout petit morceau de l'activité. Et donc, c'est évident que quand vous êtes dans une société qui vous rétribue à l'output, vous avez fait tant de séances à la Comédie Française, enfin la Comédie Française c'est un mauvais exemple parce qu'ils ont une garantie de revenus et ils sont sociétaires, mais quand vous êtes dans des spectacles, la plupart des intermittents, ils sont payés à la journée, ils sont payés au contrat jour, au temps. Et vous voyez bien que le temps de répétition, le temps de préparation, le temps de upgrading de sa propre compétence est la principale chose qui les occupe, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs ils ne veulent pas d'un emploi d'un seul employeur. Parce que comme ils le disaient, on leur demandait de voter, c'est pas de devenir au fond salarié classique, bien confortable. Ils disaient, si c'est pour avoir la garantie qui représente un revenu qui tombe tous les mois, oui, c'est évident, mais pour nous, pour notre propre métier, certainement pas, parce que si on reste avec le même employeur, passez-moi l'expression, on devient con. Si on travaille avec un mauvais metteur en scène, ce qui nous arrive de faire pour une raison alimentaire, on est foutu si on reste avec lui. Donc le pluri-emploi est fondamental. Et vous avez aujourd'hui des entreprises qui se plaignent du fait que les jeunes cadres qui arrivent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils examinent froidement l'entreprise comme au fond un truc, bon, alors je fais un an et demi avec celle-là, je passe chez telle autre, et qu'est-ce que je maximise ? Je maximise mon cursus, mon CV. Et quant à ma relation avec l'entreprise, nous ne vieillirons pas ensemble. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit, et alors dans les transformations de revenus que ça implique, c'est fondamental parce qu'en même temps, il y a une précarisation de la condition de revenu de tout ça. Parce que le modèle qu'on a construit le système industriel, c'est que vous avez une relation, non pas à vie, mais extrêmement longue avec l'entreprise, en échange de quoi vous êtes débarrassé de l'aléa de savoir comment vous allez manger le soir et comment vous allez payer votre facture de téléphone et de loyer après-demain ou dans 20 jours. Donc ça, c'est une transformation. Et du coup, vous avez des systèmes qui apparaissent, c'est-à-dire que concurremment, en même temps qu'il y a cette espèce de fragmentation de revenus, si vous voulez sortir l'externalisation,
on s'aperçoit qu'il y a sur le territoire des formes d'apparition de stabilisation du revenu par des mécanismes. Par exemple, les intermittents du spectacle gagnent grosso modo, avec une variation, une variance beaucoup plus forte évidemment que les professeurs certifiés des collèges, mais ils gagnent en termes de revenus annuels à peu près ce que gagne un professeur certifié des collèges. Si vous voulez, un intermittent gagne ce que gagnerait un en salaire, mais c'est son revenu qui, c'est son revenu, c'est pas son salaire. Mais en salaire, il gagne ce que gagnerait un professeur des collèges si on le payait à l'heure de cours effectuée. Donc il y a un élément de socialisation qui est obligé de s'accroître. C'est-à-dire que toute cette mobilité, ces dashes et ces pointillés que vous avez, qui assurent une espèce de gastole, systole de l'entreprise avec des choses à l'extérieur, ça ne marche que si parallèlement il y a des éléments qui concourent à la stabilisation du revenu. Sinon vous avez des gens qui tombent dans la précarité, la pauvreté et la catastrophe. Parce que dans un monde comme ça, si vous n'avez pas une assurance de revenu derrière, un filet, eh ben, le moindre incident, on retombe les cas classiques de pauvreté, hein, le moindre incident lourd, je ne parle pas d'un débat de santé pour nous, ça c'est pas pour les États-Unis, mais le moindre incident lourd fait que vous plongez dans le surendettement, etc. Donc c'est intéressant parce que cette transformation n'a l'air de rien, mais elle commande en matière de RH, mais aussi en matière de politique publique, de construction du système d'indemnisation du chômage, etc., etc. Elle construit, elle appelle des transformations assez profondes qui sont en fait en train de se passer.
Et Yann, ça fait écho à ce que Pierre-Michel Wenger nous a raconté ici également il y a quelques mois sur s'accomplir dans l'incertain.
Quelques autres points, hein, mais c'est un peu le même principe. Bon, les fournisseurs, vous avez vu ce qui s'est passé, c'est depuis les années 90, disons. Hein. Et c'est une espèce de gigantesque outil d'enterprise de saucisse planique, comme on dit, hein, de type SAP, etc. Complètement encastré parmi les fournisseurs dans les entreprises clients. Ça, c'est devenu des chaînes de valeur informationnelles. Qui n'arrêtent pas de communiquer entre elles. Hein. Quand vous êtes dans l'industrie aujourd'hui, vous êtes souvent des gens ici dans l'industrie, vous le savez bien, vous êtes au courant en temps réel des variations de stock de vos fournisseurs, parce que eux-mêmes sont sur SAP, etc., qui est une sorte de langage commun, hein, qui structure en profondeur l'ensemble des tissus de relations client-fournisseur. Bon. Et puis les clients finaux, ils étaient extérieurs, vous voyez, moi je les ai mis un peu comme des employés, parce que le marketing relationnel, hein, a pris part en quelque sorte sur le marketing de marque à forte audience. Hein. Ça se voit très bien, ça va y avoir les budgets publicitaires, hein, c'est un inversion en train de se faire. Tout ce qui concerne les métiers de la singularisation de la relation, ce n'est pas forcément les mêmes médias, ce n'est pas les mêmes tactiques de marque, de marketing, etc. Prennent le pas sur, disons, le marketing de grande audience. Et du coup, le client, il se retrouve à la fois pratiquement collaborateur d'entreprise. Alors, le cas extrême de l'évidence dont je parlais, c'est Google, lequel en fait, on est tous un peu à la fois des clients, des actifs productifs et des collaborateurs de Google, de façon éclaté et infinitésimal, mais on le met tous un peu. Mais c'est vrai, d'une façon plus globale, dans la façon que vous avez d'acheter les choses. Hein. Vous voyez bien, ce qu'on se disait un tout petit peu aussi hier, dans le panier moyen que vous avez de plus en plus d'achats avec des contrats, hein, et non pas de biens. C'est-à-dire, vous achetez des abonnements, des forfaits, de la forfaitisation. L'avantage que quand vous allez chez le boulanger, vous avez juste une baguette.
Hein. Un petit ajout, Antoine, qui est important par rapport à la transformation, notamment que les Japonais ont apporté avec le Just in Time. Vous apercevez que si vous voulez vraiment réduire les stocks et si vous voulez ajuster la production, la vieille économie vous dirait qu'il y a un ajustement par les marchés, globalement, ça passe par des stocks, et puis après les stocks se détamponisent, et puis on arrive à peu près à quelque chose. Avec un appareil de production qui tourne, quand il est à 85% de ses capacités de production, c'est comme s'il était à 100%. Bon. À partir du just-in-time, qu'est-ce qui se passe? Ben, quand vous ne produisez plus que ce que vous avez déjà vendu, ce que vous avez déjà commandé, ce qui a été le cas de la révolution de l'industrie automobile, de l'organisation de l'industrie automobile selon les méthodes japonaises, vous apercevez que le consommateur il participe directement à la production puisque c'est lui qui détermine le temps de production. C'est lui qui livre l'information clé, c'est-à-dire sur la demande réellement disponible. Donc la captation de cette information devient un élément décisif de la coproduction. C'est-à-dire que le client, il est coproducteur du timing de l'entreprise, des ajustements, de la rationalisation des stocks, du fait qu'il n'y a pas des parkings à Détroit où il y a 3 millions de bagnoles qui attendent d'être vendues, et après on s'adresse aux publicitaires pour les faire vendre. Donc vous voyez que c'est complètement chamboulé, c'est-à-dire que d'un certain point de vue, le consommateur est coproducteur. Alors c'est même vrai, paradoxalement, vous l'avez vu, quand les coûts de production ont commencé à tarabuster beaucoup les chaînes productrices de télévision, qu'est-ce qu'elles ont inventé? Elles ont inventé des systèmes dans lesquels l'essentiel, au fond, de ceux qui produisaient l'émission, c'était le public lui-même, sous la forme des différentes live shows, talk shows, blablabla. Non seulement des invités que vous ne payez pas, mais des gens qui se prêtent à une expérimentation, qui sont tout contents de vous rétribuer en renommée télévisuelle, quitte après eux à se démerder pour le transformer en argent, mais vous ne les payez pas. Et c'est allé très loin, puisqu'en matière de droit du travail, là c'est posé le problème, quelle est la relation contractuelle qui existe entre quelqu'un qui participe à une émission de télé-réalité et la personne avec qui signe le contrat. Et les juristes du travail sont en train d'ailleurs de s'intéresser fortement à la question parce qu'ils découvrent que c'est une activité qui n'est pas comptabilisée comme travail par l'entreprise et qui donne lieu souvent à tout sauf des rémunérations et que par conséquent il importe de la comptabiliser. Et là on va se trouver devant le problème que subitement, vous imaginez ce que ça signifie pour les budgets de ces émissions si les gens qui participent à ces télé-réalités demandent de se faire payer.
Un de mes grands amis qui était l'avocat des plaignants, c'est une quasi-class action en fait, avant qu'on fasse la class action, mais ils se sont regroupés, hein, ils ont gagné au prud'homme, ils ont eu une requalification de leur participation aux émissions en contrat de travail. Hein. C'était des émissions genre Polonica. C'était assez comique comme dossier parce que c'était assez... Bon, et puis, juste pour terminer, alors, vous voyez, j'ai écrit ça comme ça, pourquoi parce que c'est pour emblématiser ce qu'est une marque, quoi. Hein, c'est dans cette histoire-là, évidemment, les marques, j'avais l'entreprise en noir, on vous dit presque en gris, hein. Là, évidemment, les marques, dans ce système, deviennent des éléments absolument fondamentaux, quoi. C'est même un peu les clés de voûte de l'édifice, hein.
C'est l'intégrateur qui repose sur une adhésion ou une sensation d'appartenance qui n'est pas l'appartenance juridique stricte définie par un contrat. C'est-à-dire qui est beaucoup plus flou, qui est un halo qui entoure l'entreprise grise qu'on avait là-haut. Et ce halo, évidemment, correspond à la zone la plus fructueuse pour l'entreprise.
Alors après, maintenant, si on avance un peu, bon, du coup, ça crée énormément d'immatériel. Ça crée beaucoup, beaucoup d'immatériel, cette histoire-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle dans la comptabilité, dans la finance, dans le management, dans la stratégie, où chacun pourrait en donner une définition, dans chacun de ses acteurs, dans le contact, on a une définition qui n'est pas celle du financier, qui ne serait pas celle de celui qui fait du marketing, qui ne serait pas celle de celui qui fait de la stratégie, etc. Vous voyez bien sa porte dans cette histoire, mais en gros, tout ça, ça fait beaucoup de faute de mieux. Moi, je n'aime pas le mot parce que je trouve qu'il est vraiment anxiogène et négatif et tout. Ça crée de l'immatériel. Ce qu'ils appellent, c'était un slide d'un autre truc, donc il est et intangible assets. Bon, alors, comment est-ce qu'on peut les définir? Moi, si vous voulez, la chose qui m'intéresse dans cette histoire, pour dire un peu comment j'avais travaillé dessus, moi, à une époque, j'avais créé une entreprise d'ailleurs dans Publicis, qui est une filiale qui s'appelait The Goodwill Company. Alors, pourquoi est-ce que ça m'intéressait de travailler là-dessus avec des publicitaires? Parce que, d'habitude, bon, dans le langage, dans le jargon, c'était du management, de la gestion et tout ça, pour définir ces problèmes du matériel, on regarde que ça. Hein? C'est-à-dire, on dit, bah voilà, on va faire apparaître alors des nouveaux types de capitaux.
Donc on va faire apparaître le capital marge. Et puis on va dire, ah, ça a beaucoup de valeur. Après, je vais revenir sur le même contact que ça. Puis on va faire apparaître le capital humain. Et puis on va écrire des tas de brochures, sur papier glacé, des miniatures de richesse de l'homme.
Vous voyez, on va faire de la bonne communication là-dessus. Bon. Puis on va créer le capital.
Vous voyez, puis on va créer le capital organisationnel. Alors, là, ben, moi, la valeur de ma boîte, c'est dans son intelligence organisationnelle, sa réactivité. Ben, ce n'est pas une de bourse. C'est-à-dire, ça n'est ni un immeuble, le capital organisationnel, ni une usine, ni un parking. Ce n'est pas une capacité de production tangible, mais c'est pourtant l'essentiel. Et puis on va émettre encore d'autres types de capitaux, on va dire, il y a des capitales informationnelles. Ah, puis il y a aussi du capital confiance. L'entreprise marche parce qu'elle inspire confiance, etc. Vous connaissez ce jeu, hein, ce grand jeu depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, hein, c'est la création de ce néo-jargon, le jargon de la nouvelle gouvernance, dans lequel on émet plein de nouveaux types de capitaux. Enfin, vous-même inventer des termes, d'ailleurs, un peu de logique. Capital optimiste, optimistant, je ne sais pas quoi, capital d'optimisme de l'entreprise. Bon. Ah, le problème, c'est que, avec tout ça, bon, alors vous voyez, c'est ce que je résume un peu, disant, voilà, il y a la marque, la valeur du Customer Relationship Management, hein, du CRM. Il y a la valeur de la propriété intellectuelle, il y a la valeur, surtout, c'est un peu le financier qui dirait ça, des convergences qui font apparaître des options futures de convergence et de synergie entre mon entreprise et puis d'autres secteurs d'activité, la valeur du futur, et puis la valeur du capital humain. Mais le problème, c'est qu'on essaye toujours d'attacher, si vous voulez, cet immatériel à quelque chose qui est à l'intérieur. Hein. C'est comme si c'était un réactif, au sens basique du terme.
Comme si c'était une bourse. Comme si c'était dans les livres comptables.
Oui, comme si c'était une bourse, etc.
C'est dans les livres.
Oui, Google aussi. Il y a dans ces livres. Mais je suis d'accord, c'est beaucoup dans les livres comptables, mais aussi une subtilité, comme vous le savez, sûrement, hein, dans les normes comptables internationales aujourd'hui, qui ont fait des comptables hyper spécialisés plus pratiquement là-dessus, mais le principe est le suivant, hein, c'est que quand vous êtes vous-même créateur de votre marque, vous ne pouvez pas l'activer. Vous ne pouvez activer une marque à partir du moment où vous l'achetez. Parce qu'il y a eu un prix de marché. Et vous faites apparaître un goodwill. Mais quand vous êtes vous-même créateur de la marque, en général, vous ne pouvez pas l'activer. Donc quand vous achetez quelque chose, oui, puisque vous faites apparaître une matérielle. Parce qu'il y a vraiment l'écart entre ce qui est in the books et puis le prix d'actif. Et donc il y a vraiment le goodwill, dans le jargon, le goodwill, le bon terme, il y a pas mal, puis la survaleur. Donc le problème, c'est que les gens en général voient assez peu ça. Hein. C'est-à-dire le fait que c'est les deux choses qui créent le truc, si vous voulez. Et à la fois, évidemment, vous pouvez rattacher à des facteurs internes et essayer de choséifier, de réifier les immatériels. Mais le problème, c'est que ça se crée beaucoup. Finalement, on parle des phénomènes d'externalité. Alors, je définis externalité, tout le monde n'était pas là hier, tout le monde n'est pas familier. L'externalité, c'est un truc très simple, en fait. C'est l'effet indirect d'une action. Enfin, je schématise atrocement. Hein. Donc, je reprends les trois exemples simples. Quand je mets des fleurs sur mon balcon, ça n'est pas mon intention d'en faire profiter les passants. Quand j'utilise ma voiture, ça n'est pas mon intention de participer à la pollution, mais à son infinité d'image, je pollue un peu. Ça a été négatif. Et puis,
outils de connectique, quels qu'ils soient.
Téléphone, Internet, la vidéo, etc. Je participe à une fonctionnalité de réseau. C'est-à-dire qu'en entrant dans le réseau, j'augmente la capacité globale du réseau.
Et je suis à la fois, je ne suis pas un consommateur ni un producteur,
parce que je suis dans un monde dans lequel il n'y a que des utilisateurs. Tout le monde est utilisateur, et tout le monde est à la fois utilisateur et coproducteur.
Bon, et donc dans cette économie-là, évidemment il y a des actifs immatériels.
Mais il y a pas une entourloupe sur cette question des actifs immatériels, parce que est-ce que c'est davantage le résultat de ce qui se passe in the books et dans les murs, ou bien est-ce que c'est davantage le résultat de convergence entre externalités? D'où ça vient, hein?
Comment est-ce qu'on peut comment est-ce que le phénomène de réappropriation s'opère? Bon. Alors, moi, je vois ça un peu comme ça. Toute cette dématérialisation, ça crée un...
Enfin, moi, c'est ce que je vois, mais c'est vraiment à contester. Hein. Je vois ça beaucoup dans les entreprises.
Ce mouvement-là, quoi. Le passage de je parle des grands groupes là plutôt, hein, mais ça impacte toute la chaîne.
Le passage de ce statut-là, disons, d'opérateur, à ce qu'il y a quelque chose qui est un peu différent. Donc, moi j'appelle pour devenir un intégrateur. Bon.
Je vous donne un exemple très simple.
Là aujourd'hui en 2010, vous prenez Nokia. Nokia, c'était le leader de la téléphonie mobile pour quelques années, désormais, c'est un opérateur, quoi, hein, de la téléphonie mobile. Et malheureusement pour eux, en quelque sorte. Hein.
Et puis, vous prenez Apple. Apple, évidemment, c'est devenu l'intégrateur.
Et puis, assez rapidement. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Vous voyez, c'est vraiment une différence de vision du monde assez radicale. Quoi. L'opérateur, sa légitimité, il l'acquiert par l'affirmation de son corps de métier historique et par la capitalisation de son savoir-faire.
Si lui, son centre de gravité, il est plutôt dans son histoire, y compris son histoire récente, hein, sans forcément aujourd'hui, c'est dans des siècles,
mais plutôt dans quelque chose qui est capitalisé. Alors que l'intégrateur, il acquiert sa légitimité par rapport à l'envers.
Lui, il est légitime parce que on se dit qu'il va créer des convergences futures entre des besoins, des utilités. Du coup, ça crée quelque chose de assez intéressant, c'est que l'opérateur, vous pouvez bien le localiser dans un secteur d'activité. Hein, vous dites. Nokia, oui, vraiment, c'est un fabricant de téléphone mobile. Quoi. Alors que Apple, c'est un imaginaire qui est beaucoup plus complexe. Hein. Ils sont dans quelle industrie, Apple? Est-ce qu'ils sont dans la haute technologie? Est-ce qu'ils sont dans l'entertainment? Est-ce qu'ils sont dans la publicité? Il y a un peu tout ça. Quoi. C'est un peu tout. C'est intersectoriel. C'est d'emblée intersectoriel.
Bon. Donc, vous voyez, c'est ce que je définis par positionnement. Hein. C'est-à-dire, c'est inscription dans un secteur d'activité qui répond à des logiques concurrentielles de comparables.
Le problème principal dans les grands opérateurs, c'est d'être comparable par rapport à ses concurrents, pour des tas de raisons.
Et puis, d'apparaître comme meilleur qu'eux,
mais de se rendre comparable. Alors, l'intégrateur, il crée lui-même, en quelque sorte, le périmètre de son secteur. Alors, ça a des conséquences financières considérables, évidemment. Hein. Parce que vous n'allez pas du tout avoir les mêmes outils financiers. Enfin, vous allez avoir les mêmes outils financiers d'évaluation, mais vous n'allez pas évaluer du tout de la même façon une entreprise qui est très très bonne en termes de comparabilité, qui s'inscrit bien dans son benchmark, etc.
Et une entreprise, mais au contraire, c'est exploser les divers comparabilités. Vous n'allez pas l'évaluer financièrement pareil. Vous n'allez pas lui donner la même valeur d'avenir. Et vous n'allez pas du tout lui assigner le même taux d'actualisation. Dans un cas, le taux d'actualisation, c'est le résultat du comparable. C'est la moyenne sectorielle.
Alors que dans l'autre cas,
non, le taux d'actualisation,
à la limite, il est purement conventionnel.
Il est purement conventionnel, vous n'avez pas de comparable.
À quoi voulez-vous comparer Google, qui est un peu l'exemple
paroxystique d'un intégrateur complexe. Hein? Parce que, j'en sais rien, peut-être dans 10 ans, il ne sera plus, mais on voit bien que Google est de plus en plus présent dans toutes les industries. C'est-à-dire, ça fait à la fois une entreprise importante dans le care, évidemment dans la connaissance, évidemment dans toutes les industries créatives, évidemment, mais oui, mais parce que tout le monde utilise Google tout le temps.
C'est complètement intersectoriel.
Google peut s'attaquer à créer une plateforme d'usage gratuit, c'est Gmail, c'est le moteur de recherche, mais Google s'est récemment, probablement parce qu'il savait, il sentait le déficit de services publics rendus, encore qu'il en rende, le service public de l'information, ça s'appelle du rêve que les États auraient dû créer des moteurs de recherche gratuits s'ils avaient été intelligents, de faire des portails à la noix comme ont fait les Français. Mais le problème est le suivant, c'est que beaucoup de gens disent « Oui, mais ça, c'est des services gratuits à la personne, mais il n'y a rien du point de vue global. » Et on a vu curieusement récemment, à travers l'initiative Google Flux, la chose suivante, dans ce qui est fondamental dans la façon dont les épidémies reposant sur des rétrovirus se propagent, ce qui est fondamental, c'est la vitesse de propagation, avec les moyens, par exemple, d'avions, des millions de gens qui se trimballent en avion partout, et la capacité, c'est un peu comme les incendies, une épidémie, vous la contrôlez si vous intervenez dans la première ou les trois premières semaines. Après, c'est comme un incendie, après 2 heures, il est incontrôlable. Les 2 premières heures, il est contrôlable, après, vous ne savez plus, vous n'arrivez plus. Donc, Google s'est proposé, de façon très intelligente, au fond, comme le seul, en particulier dans des endroits comme la Chine, qui sont le problème clé dans le déclenchement de ces trucs-là, parce que les politiques de secret, de non-démocratie, entraînent une rétention de l'information qui avait été très forte d'ailleurs dans le cas de la, non pas de la China, mais de la précédente, là, de l'histoire de pulmonaire. Google a expliqué la chose suivante. Le problème, c'est le repérage de l'information en temps réel. Or, la population cherche, la population touchée par des symptômes cherche. C'est ce que signifie ce symptôme sur Google en temps réel. C'est-à-dire, ils vont demander, on va avoir qu'est-ce que signifie cette toux, que signifie ce type de fièvre. Des questions qui vont être posées comme ça, donc des gens qui vont se connecter. Ce qui va permettre de les tracer, de trouver la zone, l'endroit. Et si vous êtes suffisamment rapide et réactif, Google proposait de fournir à l'OMS un tableau en temps réel de ce qui se passe à la surface de la planète en 2 jours. Par rapport au mois et demi dans lequel les organisations qui dépendent de la statistique officielle, laquelle dépend des relations diplomatiques, etc., etc., et des régimes, eh bien, vous voyez que ça change tout. Donc là, vous avez typiquement la proposition d'un service public qui intègre des choses et qui amène des services très, très particuliers et culmine de la réponse. C'est-à-dire, c'est la question du temps réel. Hein, et le mapping de l'information en temps réel est certainement une des ressources non seulement en défense, mais dans le domaine de la santé, dans le domaine du contrôle des épidémies, dans plein de domaines, c'est tout à fait déterminant.
Alors ça, d'ailleurs, c'est directement lié à ce que dit Yann.
Vous avez un peu deux types de productivité très paradoxales. L'une par rapport à l'école, c'est le respect d'évaluation.
Dans un cas, mais en gros, grosso modo, quoi, hein, vous avez une productivité qui est plutôt intensive.
C'est-à-dire une productivité qui fonctionne par la standardisation, hein, par les économies d'échelle et la création de standards.
Et puis, ça crée un ratio output sur input, etc.
Hein, plus hyper basique.
Même si c'est évidemment toujours plus raffiné, plus compliqué, etc.
Mais le problème, c'est que dans l'autre cas, c'est une productivité qui fonctionne à l'envers par rapport à celle-là. Elle est plutôt extensible. C'est-à-dire qu'elle, qu'est-ce que je veux dire par extensive? C'est-à-dire que le problème, c'est moins la standardisation qu'au contraire la création de fonctionnalités de plus en plus nouvelles et de plus en plus singularisées, qui sont de plus en plus en adéquation avec soit la singularité, la vôtre personnelle, etc., soit avec, par exemple, de ma raison qui
la singularité du problème.
Des questions qui relèvent davantage de politique, de grande politique publique ou d'enjeux très marqués. Ah, évidemment, vous vous retrouvez avec une productivité qui est, pour la qualifier, d'extensible. Et c'est un peu un oxymore, une productivité extensible. C'est une contradiction dans les termes.
Bon, c'est le problème qu'a posé le rapport Taddei, du père et du fils, Dominique et François Taddei, qui ont rendu le rapport pour l'OCDE sur la créativité, l'économie de la créativité, et notamment de l'enseignement. Au fur et à mesure que vous avez des questions complexes à traiter et que vous avez un accroissement phénoménal de la scolarisation à un niveau supérieur des gens, votre problème, c'est que si vous continuez la logique de division classique du travail avec une spécialisation de plus en plus pointue, le coût, ce qu'on appellerait le coût de transaction qui consiste à mettre tout ça ensemble, devient illimité. C'est-à-dire il devient impossible de faire collaborer les gens ensemble à un degré de intensif parce que les intensivités se chassent l'une l'autre. Et par conséquent, vous allez avoir, dans les projets collaboratifs, vous allez avoir une dominance qui va éliminer celui qui est le plus intensif, va éliminer les autres avec lesquels il aurait besoin de collaborer. Et donc, dans les dispositifs créatifs, Taddei, père et fils, plaident pour le fait que la logique d'alliance et de coopération l'emporte, et de partenariat, l'emporte sur une comparabilité des qualifications spécifiques. Autrement dit, ça va être la compétence globale de l'équipe formée qui va compter, qui est la chose fondamentale, et ça ne va pas être une addition, un empilement de compétences spécifiques. Et là, on vient à ce que je vous disais hier, pour ceux qui étaient là hier, comment est-ce qu'on voit ça comme système industriel? On voit qu'on abandonne la division smithienne du travail, d'abord quand on travaille sur les petites séries d'économie de variété, dans lesquelles les réponses en termes d'économie d'échelle s'effondrent, ne sont plus bonnes, parce qu'il y a une question de qualité des choses, vous pouvez produire des jeans, le même type de jeans avec une chaîne à 600 000 production 600 000 annuelle, quand vous rentrez dans des jeans différenciés qui sont tachés, déchirés, machin, flagués et tout, c'est fini parce que vous avez des séries sur lesquelles vous vendez pas plus de 100 000 jeans, etc. Donc vous êtes obligé de réorganiser votre production complètement. Et à ce moment-là, il est clair que, si vous voulez, les économies de variété l'emportent, les économies d'apprentissage, et ce qu'il va falloir faire, c'est prendre en compte le coût et le temps d'apprentissage de la coopération des gens ensemble. Et à ce moment-là, on tombe sur non plus une division, j'allais dire top-down, qui sera déterminée objectivement par les degrés de compétences que les ingénieurs vérifieraient, qu'ensuite on vérifierait par un appel d'offres aux sous-traitants, une qualification des sous-traitants par concours, mais on réunit les gens avec lesquels on a l'habitude de travailler, ou en qui on a confiance, ou qu'on a trouvé sur le web. On les réunit et on leur dit qu'est-ce que vous savez faire chacun d'entre vous. Et avec ce que vous savez faire chacun, on va monter un projet. Et donc c'est le célèbre exemple du passage de la méthode que Renaud employait avant la Clio, et ce qu'il a mis en œuvre dans la Clio, et ça a réduit le temps de passage du projet école, ingénieur, maquette à la réalisation, à la chaîne, à la production, ça l'a divisé par 4. Oui. Alors,
je donne un exemple simple de ça, parce que ça va, à mon avis, il y a un exemple simple, quand vous prenez, c'est un peu la tarte à la crème du moment, c'est pas grave, c'est un imaginaire très puissant, quoi. C'est les histoires de, j'en viens à Apple, là, les histoires des apps. Hein. C'est-à-dire quand vous avez un iPhone, vous téléchargez des apps. Bon. Alors, évidemment, ça c'est un très bon exemple, avec toutes les ambiguïtés du truc, quoi, de ces histoires d'open innovation. Hein.
Là aussi un peu le sujet hein, principal
qu'on est censé traiter. On n'a pas d'informations, en fait, on tourne autour. Bon. C'est cette histoire d'open innovation.
Alors, pourquoi je prends l'exemple des apps? Ce n'est pas très bon parce que, justement, il y a à la fois une très...
Applications.
C'est les 190 000 applications que vous pouvez télécharger sur votre iPhone.
Vous avez votre iPhone, vous téléchargez des apps. Hein. Ça, je vous donne un exemple. Le fait que tout le monde a, c'est que, par exemple, voilà, ça, voilà, j'ai une boussole incorporée bon, dans le thème. Ça, c'est une app. Hein, une petite application. Mais vous, non, mais tout le monde a ça. Hein, et puis, il y en a donc plusieurs centaines de milliers. Bon, alors pourquoi c'est complètement cette logique-là? C'est vraiment le ratio des outcomes sur les logiques de hub. Hein. Pourquoi? Alors dans les apps, peut-être que vous le savez, il y a un côté un peu récent, mais très important. C'est que, évidemment, les apps ne sont pas produites par Apple, pas du tout. Hein. Elles sont conçues par des tas de start-up. Et puis de plus en plus, et ça moi je trouve que c'est un signal faible qui est enfin, tout à fait curieux, de plus en plus par des particules, c'est-à-dire par des gens qui ont leur nom propre, postent des apps sur l'App Store, de façon soit gratuite, soit payante, sachant que c'est très simple sur l'App Store, c'est Apple prend 30%. C'est un tarif unique. Comme c'est payant, ils prennent 30%. Mais alors, ils ont fait un communiqué à eux il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, pour dire que désormais, dans l'App Store, il y a davantage d'apps postées par des particuliers que par des startups. Moi, je trouve que c'est un signal faible très très important. Quoi. C'est-à-dire, ça veut dire que il y a plus de gens qui conçoivent dans leur cuisine et tout leur app. C'est vraiment un exemple typique. Pourquoi il est ambigu? Parce que c'est à toutes les apparences de l'open innovation, mais ça n'en est pas. Quoi. Donc, il y a quand même un péage. Et puis il y a Apple, quoi, qui est le gérant et le garant de l'ensemble du système. Mais s'il n'y avait pas une forme d'open innovation un peu hybride, il n'y aurait tout simplement pas d'apps, quoi. Hein? Parce que même Apple, en recrutant les meilleurs développeurs, les meilleurs machins, ils n'avaient pas l'idée que l'intelligence collective peut produire en termes de posting de nouvelles apps, quoi. Parce que vous avez des apps extrêmement diverses. Hein? Ça ne veut rien dire non plus, n'importe quoi, dans l'App Store. Bon.
Ah, mais c'est vraiment de la productivité extensive.
Par captation au fond des externalités.
Oui,
c'est de la captation d'externalités de création et d'utilité très simple. Quoi. La plupart du temps, c'est des utilités du quotidien, des apps.
Mais vous me regardez, je ne sais pas pourquoi ce que c'est un marché.
Une application. Une mini-application dont vous vous servez par exemple sur votre iPhone quand vous voulez. Par exemple, vous avez besoin de savoir d'avoir le plan du métro de la ville où vous êtes. Vous avez besoin d'avoir... Alors, il y en a qui sont téléchargés dans votre iPhone immédiatement, mais après, quand vous l'achetez. Mais après, vous pouvez avoir, enfin, plus exactement, quand vous achetez par iPhone, vous achetez un abonnement à un fournisseur d'accès lequel reverse à Apple la chose, etc. Mais vous pouvez avoir...
Je vous donne un exemple, voilà. Mais moi, je ne vais pas faire un peu de bricolage. Bon, et là, vous voyez, j'ai mon niveau.
Les jeux que tu donnes l'eau, c'est quoi?
Quand je pose les étagères, je pose...
Ben oui, vous servez votre téléphone mobile, vous avez une lampe de poche, vous avez un truc pour mesurer. Je suis sûr qu'il y a une application avec un rayon laser pour mesurer à distance les choses. Mais c'est invraisemblable, parce que vous avez les restaurants, la réservation de taxi, les horaires de la SNCF, votre avion, quand est-ce qu'il arrive, est-ce qu'il a un retard. C'est-à-dire que vous vous connectez, vous êtes en prise avec la production d'informations en tout genre,
à tous les niveaux. Il y a Stanza, moi je parle toujours sur mon iPhone, évidemment ce qui m'intéresse moi, c'est de pouvoir lire dans la rue quand je veux tout le temps. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai sur mon iPhone, je dois avoir 150 bouquins, dont les œuvres complètes de Michelet, celle de Saint-Simon, La Princesse de Clèves, que j'ai évidemment immédiatement téléchargé après la fin de Sarkozy. Surtout qu'il est très mal tombé parce que c'est une des choses les plus grandes, c'est un des grands chefs-d'œuvre de la littérature française, donc il fallait un illettré total pour dire une connerie pareille. Mais bon, voilà. Donc, mais ce qui est hallucinant, c'est que vous pouvez lire, vous pouvez vous servir de ça pour et je pense que tu devrais montrer
Qu'est-ce qu'il a dit Sarkozy?
Sarkozy a dit quel est le sadique qui a placé dans les concours de recrutement de fonctionnaires la princesse de Clèves au programme. Ce qui est profondément bête, parce que en plus, je regardais, moi je me suis amusé parce que je l'avais lu il y a longtemps, je l'ai relu, et je me suis aperçu qu'en termes de langage, c'est comme du Marivaux, c'est-à-dire que ça a moins vieilli que la langue de Molière. Si vous donnez à des enfants actuellement à lire du Molière, il faut que vous mettiez des notes en bas de page, très très souvent, parce que la langue devient difficile, elle s'éloigne. C'est un peu comme du Montaigne, etc., ou du Rabelais. En revanche, la princesse de Clèves, je ne sais pas pourquoi, mais c'est probablement parce que c'est un vocabulaire assez pauvre.
C'est plus réaliste.
Non, pas du tout réaliste. Non, c'est plutôt la carte du tendre, c'est plutôt les méandres sentimentaux. Si vous voulez, ce serait du Facebook intelligent et lettré. Ce serait du Facebook cultivé. Mais du coup, c'est étonnamment moderne. Ça veut dire que quand vous entendez les gamins se raconter leurs histoires sentimentales, il y a d'ailleurs un très joli film qui a fait ça à propos de Marivaux, L'Esquive, qui raconte comment des gamins de banlieue qui font du théâtre font les bancs. Mais voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire avec ça.
C'est plus facile que les âges.
C'est vous pouvez faire avec ça n'importe quoi qui dépend du degré d'information en temps réel, d'informations pratiques, de trucs du concours LinkedIn. Enfin, c'est.
Je donne un exemple simple, hein, vous avez jeté des publicitaires, vous savez un peu tard. Mais d'habitude, les gens qui font de la publicité, c'est plutôt les grosses entreprises, quoi, les grosses marques. Quoi. Et puis quand vous avez, admettons, vous avez une brasserie à Bruxelles, bon, vous n'allez pas être un grand advertiser. Votre publicité, si vous voulez, elle se fait par le bouche à oreille, un petit peu par les guides, j'essaie de différencier dans les guides, les trucs, mais c'est assez limité. Quoi. Évidemment, avec ces histoires maintenant, si vous ajoutez à Internet la géolocalisation comme une dimension supplémentaire, bah, du coup, vous avez des tas de gens qui ne se vivaient pas comme des advertisers, qui vont se mettre à faire de l'advertising. Par exemple, vous avez une brasserie à Bruxelles, bon. Si vous êtes un peu malin, vous lancez tout de suite votre app,
concernant votre brasserie, et puis qui géolocalise les gens,
qui leur proposent la brasserie, qui leur proposent une promotion, qui leur font, qui leur racontent des événements, ce qui s'y passe les choses, etc. C'est-à-dire qu'il y a un marché considérable, par exemple, pour les publicitaires qui sont en train d'arriver, qui est le marché du micro-advertising. Bon, à des points que c'est leur des fournis doublés tous, parce qu'ils se disent, bon, faut absolument, parce que, évidemment, alors, c'est pas du tout la même conception du métier d'audience. Hein? Mais, ça commence à se développer de façon très rapide. Et là-dessus, à mon avis, on va avoir un effet de réseau, comme on l'a vu, dès qu'il y a un effet de réseau. C'est-à-dire, à l'époque d'un effet de réseau, c'est toujours la même histoire, c'est que ça commence doucement, et hop, tout d'un coup, vous avez une exponentielle.
L'astuce fondamentale en termes. Ah, fraîche.
Oui, comment?
Fraîche.
Non, c'est un cas. Non, c'est un cas. Un cas. Il a, je crois qu'il a 280 millions de clics sur son.
Mais ce qui est intéressant, à mon avis, dans cette histoire, c'est le réseau. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'activité des gens en train de réseauter, il n'y a pas d'autre mot, on va inventer le mot réseauter, crée une ressource économique considérable qui est tout simplement que, si vous voulez constituer ça à coup de pub, à coup d'investissement, ça va vous coûter la peau des fesses. Et avec une efficacité très, très médiocre, puisque vous savez que sur un mailing,
vous avez entre 0,5 et 2% qui atteignent une cible et encore. Bon. Là, vous avez au contraire, dans la publicité dédiée qui surfe sur les réseaux en train de se constituer, vous avez une efficacité beaucoup plus grande parce que c'est comme le bouche à oreille. C'est-à-dire que les gens font eux-mêmes, c'est eux qui supportent le coût en temps réel, en temps d'activité mentale, intellectuelle et attentionnelle, c'est eux qui supportent le coût de ça, c'est-à-dire qu'ils créent eux-mêmes cette chose, hein, qui crée la vague. La vague, elle est créée par ce qu'on appelle le crowd, hein, le mouvement d'une multiplicité de gens en train de faire des choses et les mêmes choses. Et qu'est-ce que devient l'entrepreneur intelligent publicitaire ou l'entreprise tout court? C'est qu'elle va surfer sur cette vague, ou elle va capter par des instruments que le dont on dispose avec le numérique, elle va capter cette vague en train de se former pour savoir qu'à un moment donné, si elle se place au bon moment, elle va être portée, sans avoir à produire l'énergie pour se faire porter.
Comme on le disait hier, évidemment, elle ne va pas chercher à créer la vague.
Non.
Elle va pas chercher à capter la vague.
Mais vous savez qu'en termes de mobilisation, il y a un bouquin de Tepscott que je vous recommande, c'est les Wikinomics. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi la collaboration de tout change? Et il donne un exemple frappant, ça commence par ça, par la Goldor canadienne, qui est une entreprise qui était menacée littéralement d'être rachetée. Sa capitalisation boursière était tombée à moins de 1 milliard de dollars, je ne sais combien. Bon, et c'était la catastrophe. Et le conseil d'administration avait usé 3 ou 4 PDG qui n'avaient jamais réussi à faire quoi que ce soit. Et elle s'adressait à la banque, et elle avait besoin d'un gros crédit. Et la banque lui refusait. Donc c'était la cata. Et ils ont fait venir quelqu'un qui a tenté une mesure qui maintenant est pratiquement un modèle dans les questions de management, et qui s'est aperçu que le vrai problème, c'était que l'entreprise n'était pas capable de dire au fond quelles étaient ses ressources en or. C'est-à-dire qu'elle avait des terrains partout, des mines, des machins. Pas capable de dire qu'est-ce qu'elle recelait en potentiel de minerai d'or, puisque c'est une entreprise qui produisait de l'or. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de réunir pour la 50e fois ces géophysiciens, ces ingénieurs, et leur dire bon, il faut qu'on reprenne exactement parcelle par parcelle ce que nous possédons, qu'on voit les minerais, qu'on évalue les minerais, il n'y a pas du tout. On fait une. Oui, mais il faut expliquer parce que je trouve que l'histoire est en elle-même intéressante. C'est-à-dire qu'il a réuni la plupart des. Il a ouvert un concours à la manière du 18e siècle, et il a dit voilà, doté d'un prix doté de 100 000 dollars. Pour celui qui nous donnera l'évaluation la plus proche des ressources réelles, etc. Il a ouvert un concours public ouvert à tout le monde. Et plus exactement, il a fait plus. Il a mis en ligne, officiellement et accédant, ce que les entreprises considèrent comme le cœur du cœur du cœur du secret, c'est-à-dire les statuts juridiques, les terrains, tout. Les travaux internes qui avaient été faits sur les travaux géologiques et tout. Et puis, ils ont fait un appel sur Internet, ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une mobilisation invraisemblable qui part des doctorants à des retraités, des ingénieurs même d'entreprises qui étaient contre, à la fin des fins, en 6 mois, ils ont ramassé une évaluation des ressources qui doublait ou triplait les ressources qu'ils avaient été capables de trouver et qui sont allées d'ailleurs exactes. C'est-à-dire que la science collective, l'intelligence collective avait ramené plus de données, plus d'éléments. Le résultat des courses, c'est qu'avec ça, ils ont pu lever leur emprunt, ils ont pu éviter l'OPA dont ils étaient menacés et ils ont pu repartir et leur capitalisation boursière a quadruplé. C'est un exemple de crowdsourcing. Ça veut dire que c'est une capacité par l'entreprise de capter l'intelligence collective en réseau, et notamment avec l'outil du numérique. Et ça, je pense que c'est exactement la chose qui nous intéresse à propos de la plateforme, car ce sont des plateformes équipées, outillées. C'est-à-dire que si vous n'utilisez pas la puissance du numérique pour capter l'information en temps réel en train de se faire et les réseaux en train de se faire, eh ben, vous n'avez ni planche de surf pour vous mettre, ni endroit pour repérer les bonnes vagues.
Bon, ce qui pose une question assez qui n'a pas de solution, hein,
à tous les gens qui s'occupent notamment des questions de marque et d'image. Parce que
ce n'est d'habitude, enfin, ce n'est pas d'habitude,
il y a un paradoxe. Quand vous avez une entreprise qui a une notoriété, une image, etc., vous allez essayer de raisonner en termes d'identifiabilité de votre entreprise et d'identité.
Alors vous allez essayer de faire apparaître ce qui est votre puissance, quoi. Parce que vous êtes le garant de la qualité de vos produits, de vos machins, etc. Et donc, votre concept central, si vous voulez, il s'avère non, c'est celui de votre identité, quoi. Alors, les gens, ils n'arrêtent pas de parler comme ça, veut dire mon identité de marque. Bon. Là, le problème, c'est que, vous voyez, que pour capter l'intelligence collective qui ne donne pas les mêmes résultats, il n'y a rien à faire, hein, qu'un système propriétaire, vous ne pouvez pas vous présenter tout à fait de la même façon. C'est-à-dire, l'exemple extrême, qui est aussi une marque à la crème du moment, c'est vous allez sur la page Apple, la page qui est en prise de Google, depuis plusieurs années, elle est obstinément blanche, comme un écran de cinéma avant que vous ayez la projection du film. Parce que le blanc, dans nos cultures, etc., universel, je ne sais pas, c'est justement sa centralité. Il n'y a pas d'identité. Ah, et vous voyez, c'est le paradoxe du truc. C'est l'entreprise la plus puissante en termes de captation au jour où on parle de l'intelligence collective, c'est justement l'entreprise qui essaie d'avoir le moins d'identité. D'ailleurs, il y a un truc qui ne trompe pas,
même si j'enfonce une porte ouverte, mais Google
a un budget publicitaire quasi nul. Il n'y a pas de budget publicitaire de Google, très peu. Ils ont fait un tout petit peu de pub sur Google Chrome récemment, mais très peu.
Et le recrutement
de la même façon que Facebook est une entreprise qui n'a pas de budget publicitaire. Bon, alors, évidemment, vous voyez, c'est-à-dire que là, c'est un espèce de réagencement quand même,
qui n'est pas seulement de l'ordre des questions de productivité,
mais qui est de l'ordre vraiment des imaginaires, quoi, de ce que Mme Michu.
Bon. Et puis, alors, sur les marchés, évidemment, vous passez d'un marché dans lequel vous avez un marché de dissociation entre les produits et les services, et puis soit vous faites l'un, soit vous faites l'autre, soit vous faites les deux, mais vous dissociez le produit et le service, à un marché, on pourrait, je ne sais pas comment appeler ça, un marché de solution.
Sachant, comme vous savez, pour ne pas être naïf avec ça, que ceux qui ont inventé le marché de solutions, c'est les gens justement de l'industrie lourde. Hein. C'est business to business qui a inventé le marché de solutions. Hein. Et puis c'est en train d'arriver de façon très importante dans le B2C. Mais c'est les gens de l'industrie. Hein. Parce qu'il y a des tas de paradoxes quand on parle du matériel, parce qu'on a l'impression qu'on parle justement d'un monde qui n'est pas le monde industriel. Or c'est le monde industriel. Le plus industriel qui soit, c'est souvent les entreprises qui ont le plus de questions industrielles, de mobilisation de capital et de productivité, qui sont passées les premières du marché des produits ou services au marché des solutions. Alors, vous savez, dans le business, dans le B2B, vous achetez des solutions. Vous n'en avez pas, quelque sorte.
L'illustration est passée de la vente. De brevets ou la vente de plans d'usine sur plan à l'usine clé en main et à la montée en cadence. C'est plus l'usine clé en main qu'on monte, c'est l'usine qui est montée en cadence. Donc il a résolu le problème au fond de rodage, si vous voulez, de l'outil productif.
Dans l'immobilier de bureau, c'est vrai que vous voyez très rarement le nombre des mètres carrés plus du service. Et quand vous allez dans les trucs que vous élaborez, il y a aussi les stratères, les machins, tout ça, et incorporer l'organisation des mètres carrés, etc.
Alors, évidemment, vous n'avez pas du tout la même innovation. Dans un cas, une innovation propriétaire,
c'est le brevet, si vous voulez, hein, puis la grande dame de cette
histoire, hein, la forme du brevet. Et maîtriser et aussi exhaustif que possible de la chaîne de valeur.
Hein. Alors que dans l'autre cas, vous avez l'inverse. Quoi. L'innovation collaborative avec une crédibilité de la marque
et des partenariats globaux.
Et des partenariats qui apparaissent comme un assemblage et d'intégration et pas comme quelque chose qui est un offreur. Il y a des grandes différences entre apparaître comme un offreur en termes d'identité de marque, par exemple, et puis le fait d'avoir un lieu d'assemblage, d'intégration, de coopération.
Google et Apple qui se font énormément les brevets et protègent énormément leur technologie.
Mais bien sûr.
Enfin, Google, c'est pas le brevet, c'est carrément le secret. Apple, c'est le brevet sur la couche supérieure de la machine. Mais la couche inférieure d'un Mac, c'est licence BSD, open source. C'est la base de la... C'est d'ailleurs pour ça que les gens qui sont vraiment des fanatiques de l'open source, leur idéal, c'est de prendre un Mac, à cause de la qualité de la machine, et de sur le Mac, de désinstaller l'OS Safari, ou tout ce que vous voulez, ou Leopard, et de mettre un Debian quelconque, ou un Ubuntu dessus, parce qu'en réalité, tous les systèmes de base, en bas, en dessous, sont compatibles avec le Linux. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, des Microsoft.
Mais les acteurs qui ont réussi cette stratégie de cloud, ce sont ceux qui ont réussi à combiner un contrôle. Parce que, par exemple, les projets de Red Hat, les projets plus open source, ils n'ont quand même pas atteint le...
Moi, je suis en avant d'accord.
Ceux qui ont réussi à contrôler...
C'est contrôlé, ça dépend de ce qu'on entend par contrôlé. Je pense que c'est pas contrôlé, c'est... arriver à reporter le lieu de valorisation d'un endroit où il clôture, il empêche l'innovation, à une zone où, si vous voulez, on arrive à faire l'argent. Grosso modo, c'est le modèle des clubs de foot ou c'est le modèle de Star Wars qui gagne de l'argent accessoirement sur le film et qui en gagne plus dans les dérivés, les figurines, que dans le truc. C'est le modèle de tout ce qui va, c'est le modèle des clubs de foot qui gagne de l'argent sur les t-shirts qu'ils vendent et pas sur le système de spectacle de foot. C'est sur les droits de retransmission qui gagnent, c'est pas sur le match. D'ailleurs, vous avez vu récemment qu'on peut faire maintenant jouer les équipes à public fermé, à stade fermé pour les histoires de hooligan et de machin, et que ça n'empêche pas que la retransmission des matchs a lieu, etc. Bon, donc on est c'est pas le problème. Le problème, c'est la fragmentation de la chaîne de la valeur, son hétérogénéité, et le fait qu'il faut trouver les bons endroits où on ouvre, et les endroits où on ferme. C'est un peu le problème du protectionnisme, c'est ce que les Japonais ont pratiqué sur ce qu'on appelle le développement en vol de cygnes sauvages. C'est-à-dire c'est un mélange d'ouverture. Il faut ouvrir dans les secteurs qui ne vont pas être tués à la concurrence, où l'émergence des acteurs nouveaux ne va pas être tuée. Et il faut fermer, au contraire, quand on a, à un moment donné, des choses qui doivent être protégées comme un semis, une dépinière, etc., d'entreprise et tout. Et ça, c'est véritablement, c'est donc pas de l'hybride. Parce que souvent, les gens pensent qu'ils vont être hybrides. C'est l'erreur des gens qui ont fait de l'open source. Parce que l'erreur des gens qui ont fait de l'open source, c'est qu'ils ont dit, voilà, on crée des externalités positives, on les balance. Alors évidemment, dans ce cas-là, les propriétaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, il y a bon banania, je ramasse. Hein? Et puis, quand on parle des financements globaux, de la production de ces externalités positives, il n'y a plus personne, c'est comme l'avenir des phares. Il n'y a pas de marché possible pour la construction de phares. C'est ou de la subvention publique, ou des systèmes détournés autrement. Mais ça ne peut pas être un système de marché. À la limite, les Creative Commons sont un modèle, et les modèles du copyleft sont plus astucieux dans la limite qu'ils mettent à la prédation des externalités positives par les systèmes propriétaires. Donc ça, c'est vraiment compliqué. Mais en même temps, il faut voir que les gens de l'open source, ils avaient un problème, c'était battre le standard propriétaire et installer les standards non propriétaires de façon à gagner la bataille des standards. C'est-à-dire, c'est la grande querelle que vous avez sur les matériels. C'est pour ça que l'électronique est une foire invraisemblable. Et les constructeurs automobiles ont raison de dire que si on avait laissé l'industrie automobile sur ce qui s'est produit pour les ordinateurs, on aurait eu des voitures avec la largeur des cieux, de pneus, de hauteur qui ne se seraient jamais standardisées, etc. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une norme qui soit imposée à tout le monde, notamment la norme d'interopérabilité. C'est seulement depuis 6 mois que vous avez l'obligation maintenant, un engagement de tous les constructeurs de portables téléphones, à ce que les chargeurs soient compatibles entre eux. Actuellement, aucun chargeur n'est compatible, ni à l'intérieur d'une marque, dans les différents modèles, ni entre les marques. Donc vous avez les gens qui sont en train de courir. Bon, ça c'est une norme toute bête qui ressemble à celle quand on a exigé que les pneus des véhicules pour touristes, il n'y ait pas des pneus qui fassent 3 mètres de haut et d'autres qui fassent 20 cm. Hein, c'est des choses comme ça. Mais on est bien d'accord qu'il y a un vrai problème économique derrière. Il y a un super problème de possibilité de, au bout d'une chaîne de valeur, de ramasser quelque chose. Donc, c'est la vraie, mais c'est une vraie contradiction qu'on est obligé d'être. De voir dans son ensemble. Et la solution immédiate, oui, on va faire de l'économie mixte, on va faire de l'hybride, c'est pas si facile que ça. Et vous voyez bien que Apple, sa caractéristique par rapport aux grands choix qu'ont fait d'autres gens, à IBM qui s'est immatérialisé totalement et qui s'immatérialise de plus en plus, à Microsoft qui suit avec retard comme d'habitude tout ça, mais comment ? Non, qui ramasse plus, hein, c'est fini, c'est fini. Je pense que c'est l'échec de Vista a été un truc cinglant, et vous avez bien vu que Bill Gates, son cadeau de départ, ça a été de dire que désormais les gens n'achèteraient plus des systèmes d'exploitation. Le seul moment où ils vont les acheter, c'est quand ils sont avec des bécanes, ils ne râlent pas trop quand ils achètent un Mac. Parce qu'il y a une question de supériorité de la machine. Mais si vous avez, et Apple a pris une décision de garder le contrôle sur le hardware, le software, le software applicatif et surtout la connectivité des gens. Parce que c'est là où ils ont gagné la partie. C'est par l'iPod et l'iPhone qui sont en train de revenir sur la fourniture. Ils sont remontés.
Vous voyez bien qu'ils ont ils ont une stratégie, pour le dire basiquement, par les périphéries. Ouais. C'est-à-dire Apple a gagné par les périphéries. C'est-à-dire en incorporant dans des produits bien designés, etc., des utilités de périphérie.
Regardez vous avez pris l'App Store Apple comme un exemple de créativité, micro-idée ou d'unité. Si on regarde tous ceux qui réussissent, c'est-à-dire Facebook, Google, même Wikipédia d'une certaine manière, il y a un peu, je trouve, la même logique, c'est-à-dire qu'on donne une liberté dans un cadre très contrôlé et l'entreprise garde le contrôle.
Non, Wikipédia, on ne donne pas une. D'abord, c'est pas une.
Il y a un ensemble de règles extrêmement strictes.
Mais il y a toujours des règles.
Oui
mais c'est les règles d'appropriation, ce n'est pas forcément des règles propriétaires. Dans le cas de Wikipédia, il n'y a pas de. C'est pas du tout la même chose, et d'ailleurs il y a un problème sérieux économique pour Wikipédia, qu'il n'y a pas, si vous voulez, pour Facebook pour l'instant, ou qu'il n'y a pas pour les réseaux sociaux. Mais pour Wikipédia, il y a un problème.
Je voulais peut-être mieux comprendre pourquoi vous dites qu'il y a un problème dans ce modèle comme App Store, Facebook.
Non, je ne dis pas qu'il y a un problème. Je dis une chose très basique, qui est que.
Quand je décris cette antinomie-là, cette opposition, si vous voulez. Évidemment, elle est, je suis désolé d'être aussi basique, quoi. La vérité, ils ont un peu entre les deux. Quoi. Évidemment que vous n'avez pas de système complet d'open innovation complet, quoi. Et puis, mais ce qui est important, c'est de dire que vous avez de moins en moins de systèmes intégralement propriétaires d'innovation.
Et comme vous allez avoir une offre de gratuit, si vous voulez vendre quelque chose dans les apps, et des apps qui vont de 15€ à 90 centimes d'euros, vous avez une base de gratuit qui est fondamentale. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cette base de gratuit, ça ne marche pas. Ça marche pas.
Il faut qu'on fasse une pause.
Oui, tous les projets, par exemple, le projet de faire un moteur de recherche payant, c'est évident qu'au départ, quand des gens sont arrivés, il faut faire le moteur de recherche gratuit. La plupart des gens qui avaient l'habitude de travailler dans le business ont dit, mais vous êtes complètement cinglés.
Bon, alors merci pour cette...
Pourtant, l'ICOS a fait ça, et l'ICOS a perdu là-dessus, et les opérateurs ont perdu parce qu'ils n'offraient pas de service gratuit suffisamment vite, comme Google l'a fait sur
Internet. Merci pour cette transition, parce que tu fais la transition avec le deuxième sujet qu'on voulait aborder, c'est la question moins déterrée. Avant, on fait une pause tout de suite, dans une minute. On a beaucoup parlé de la question du territoire, hein, mais au sens large. C'est quoi le périmètre, le territoire et tout. Puis là, alors dans le deuxième point, moi, je trouve que comme question un peu au capitalisme cognitif, on va essayer de développer un peu ça, notamment ce problème-là, là, qu'on a déjà eu des discussions ensemble, on va essayer de développer, c'est la question de la forme des désirs. Hein.
Les gens ont fait le désir, quoi, veulent quoi, qu'est-ce qu'ils veulent, je crois. Comment ils veulent, quoi.
Bon, alors on va faire une pause tout de suite, mais moi je prends cette image-là, elle est un peu simplette, quoi. Mais c'est de dire, on est passé vraiment le désir qui, si on les cartographiait, aurait donné, mais c'est plus du tout le monde dans lequel on est, une espèce de poire, vous voyez, avec de l'entrée de gamme, de beaucoup de niveaux de gamme, et puis un peu de premium. Un sablier, alors c'est bien avec ce que vient de dire Yann, parce que dans le sablier, le bas du sablier, j'ai mis le logo d'un truc qui n'existe plus, mais qui a une époque, c'est toute une histoire, qui était Napster, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un des premiers très grands jeux de peer-to-peer,
dans lequel, alors qu'il y a évidemment lancé toutes les controverses sur les droits de propriété dans la musique, quoi, hein, et tout ça.
Bon, Napster, c'est quand même l'origine de Firefox.
Oui, absolument.
35 millions de téléchargements de nouvelles versions en une journée.
Bon, alors après la pause, on revient à cette histoire de poire ou sablier, tout ça. Comment ça se...
Oui. C'est une persévérance. Le staff, okay.
Bon, merci.
Staff de salarié prend pour se saborder sur un livre un cube de programme en livre et parce que sont des groupes que Explorer, enfin, Explorer, qui avait été tué par un donc Napster, en fait, était à l'origine de plein de. Comme beaucoup, tout ça c'est une histoire. Il y a 15 à 20 ans d'histoire, de livres, qui est en train de rafler, j'ai vu qu'il progresse de façon foudroyante en France, 40% du marché. Curieusement, les Français vont se trouver des acteurs extrêmement efficaces. D'ailleurs, c'est une réalité, puisque en termes de culture informatique, c'était eux. Par exemple, c'est eux qui ont inventé le premier ordinateur portable. Le gars qui l'a inventé, qui s'appelle Strauss-Kahn, ils ont inventé un ordinateur qui a été celui, encore une fois, Bill Gates et tous ces clients, en fait, avaient complètement cloné, ils ont présenté deux transmetteurs. Et Apple avait sorti Apple, c'était en 80. En 82, je crois, le premier ordinateur à présenter comme ça, le 72 aussi.
Je pense que sur la tête, parce que quelque part, on va gagner l'économie ou les idées sont plus importantes, mais ceux qui gagnent de l'argent, ce n'est pas ceux qui ont les idées, c'est ceux qui arrivent à trouver le modèle.
Oui, mais là, il y avait, il y avait deux choses, c'est-à-dire que je pense que Microsoft est un fondant. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs souvent comme ceux qui ont gagné de l'argent, c'est la même chose pour le père Newton, qui était un véritable homme d'affaires, qui avait instauré un réseau de veille et d'espionnage et qui a pompé vers l'Angleterre, qui a drainé toute l'Europe continentale, parce que le malheureux Huygens, tout le monde qui était en correspondance avec Newton, qui a formé l'Académie des sciences sur ce modèle-là, drainait les inventions, etc., et les ramenait. À l'époque, ces scientifiques avaient un partage un peu comme. Montagnier a trouvé normal de partager avec les Américains, c'est-à-dire des échanges de cellules de souche. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ce qui fait que quand on a découvert les cellules de souche du virus du sida, les Américains ont annoncé qu'ils avaient l'heure. Ça a suffi pour créer un bordel fantastique pendant 5 ans, au terme duquel les Français ont partagé le droit dessus avec les Américains. Le mal était fait, c'est normal. Il s'est avéré qu'en fait, c'était à partir de cellules françaises, souches françaises, la découverte américaine n'en était pas une. Le résultat des courses, c'est passé le Nobel, a été donné à Senussi et Barès, Senussi et Montagnier, et pas à l'équipe américaine. C'est vrai qu'en termes de commerce, les Américains avaient gagné, c'est-à-dire qu'ils avaient réussi à choper la moitié du marché des royalties. Mais Edison a fait la même chose. L'inventeur de l'ampoule, c'est pas Edison. C'est un malheureux savant anglais qui a le malheur dans une communication publique de faire part de la véritable invention de l'ampoule, qui n'est pas dès 1828, on avait déjà pensé à un pôle différentiel de pôle entre un pôle négatif et un positif avec un arc et un truc qui brûlait, c'était à l'époque un tissu de feutre, une feutrine. Donc ça, le principe avait été inventé, mais ça se heurtait au fait que le tissu cramait, mais tout s'effondrait, c'est un peu comme dans les bouteilles de butagaz. Vous savez, les butagaz portables, vous avez cette espèce de petit truc, ce filet, qui au bout d'un moment tombe en poussière. Et là, la feutrine cramait tout de suite, si c'était un métal, il fondait. Donc on a fini par trouver du tungstène, des métaux extrêmement résistants à l'intensité, au phénomène de résistance. Mais la véritable invention, c'est le vide qui, en créant, en raréfiant l'oxygène, permet la combustion de ne pas atteindre la température qui fait fondre le fil de tungstène. Donc, si vous voulez, ce principe-là, Edison l'a chopé comme ça en gamin, il a immédiatement mis en route son truc aux États-Unis, il a déposé un brevet, et il a eu le pipet de revenir en Grande-Bretagne avec l'idée d'installer une entreprise qui vendrait la compagnie des gros marchés, c'était les marchés publics. Et là, bon, souci, le bureau des brevets anglais lui a dit, écoutez, monsieur, peut-être que ce que vous avez fait aux États-Unis, qui d'ailleurs à l'époque ne connaissait pas les brevets internationaux,
la reconnaissance des brevets, c'est la Convention de Paris, c'est 1883, c'est très tard. Alors que ces affaires commencent dès 1860. Et on lui a dit, bah, écoutez, peut-être que ce que vous avez fait, vous avez fait là, mais en Angleterre, vous ne fonderez pas de société sans au moins partager les bénéfices avec
le brave que...
le vrai inventeur. Donc, dans ces histoires, partout où on parle de propriété, il y a derrière un vol initial. Hein, l'Angleterre d'Elisabeth II, l'Angleterre d'Elisabeth Ier, s'il n'y avait pas eu le capitaine Drake qui a capté les galions espagnols remplis d'or et qui a grosso modo ramené 170 millions de dollars de l'époque, enfin de livres sterling, ce qui correspond grosso modo à 4 ou 5 milliards d'aujourd'hui, eh bien le trésor anglais aurait été dans un effondrement dans lequel il était déjà sous Henri VIII, ce qui avait amené Henri VIII à nationaliser les biens du clergé, puisqu'en réalité c'est ça derrière l'histoire du divorce, pour réussir à remplir les caisses de l'État. Et donc l'Angleterre a bénéficié de 15 ou 20 ans à un moment décisif de ce qu'on peut appeler un vol pur et simple, c'est-à-dire elle avait dévalisé les coffrets espagnols qui d'ailleurs avaient pillé les coffrets des malheureux indiens. Donc on est toujours, donc il y a toujours dans cette histoire
hein, il y a voleur.
Oui, non, il y a, ou alors il y a un héritage, vous savez, vous connaissez l'histoire célèbre, Jacob rencontre Isaac et lui dit comment ça va, oh, ça va, j'ai écouté mes affaires vont très bien, alors comment t'as fait? Ah mais voilà, j'ai trouvé une pomme, j'ai acheté une pomme, j'ai illustré ma pomme, j'ai été là-dedans, et j'ai gagné un bon, et alors combien t'avais gagné? Ah, bah, c'est formidable parce que j'ai gagné deux pommes, avec deux pommes, j'ai illustré ma pomme, là, 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 je les ai vendues. Et comme ça, pendant une demi-heure, et l'autre lui dit, arrête, et alors qu'est-ce que t'as fait? Parce que c'est pas avec ça que t'es devenu riche. Il a fait, non, j'ai illustré ma pomme, machin, puis après j'ai fait un héritage, et là ça m'a permis de démarrer. Donc où il y a un vol, où il y a un héritage, mais c'est strictement impossible, avec de la vente de deux pommes, plus deux pommes, plus deux pommes, d'arriver à un truc comme ça. Et donc dans ces histoires de propriété, Newton avait été très malin. C'est-à-dire qu'il avait compris que le glanage, parce qu'on peut faire du captage d'externalités. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises ont des veilles technologiques, et la veille technologique des très grandes entreprises, ça consiste à repérer l'innovation chez les petits. Et les petits n'ont pas, parce que le coût d'accès d'entrer dans un brevet, c'est 150 000 euros de dépôt. Dans les trois zones, un brevet mondial, ça coûte beaucoup plus, c'est 200 000, 300 000 euros. Un investissement qu'il faut quasiment renouveler par an, comment voulez-vous, avant qu'un brevet rapporte 150 000 euros, il faut se lever de bonne heure. Donc, il y a énormément de petites et moyennes entreprises qui ne sont pas capables de porter, alors d'où d'ailleurs l'idée des clusters, que ces trucs-là sont portés par des universités, par des pouvoirs publics, par des entités. Alors après, il se pose le problème de la répartition de ça, parce que si c'est la collectivité locale qui, si vous voulez, avance l'argent, ça a été étudié quand on a étudié les fameux miracles de la troisième Italie. Au début, les gens disaient, merveilleux, la troisième Italie, ça s'organise, on aurait pu. Le MIT a envoyé un deuxième rapporteur qui a bien regardé, parce qu'au début, qui aurait s'appelé, avait dit, c'est fabuleux, et puis le MIT a envoyé un rapporteur qui a dit, bon, écoutez, c'est des zones où, premièrement, la circulation automobile, à cause de la décentralisation productive, augmente de 10% l'an le trafic des camions. C'est-à-dire le truc est strictement impossible à terme, parce qu'à terme, on a des lorgnettes de camions partout, c'est bon, et dans les routes de neige, des routes dans le Trentin, le Haut-Adige et tout. Puis après, ils ont dit, le problème, c'est que là-dedans, il faut c'est les impôts locaux qui financent tout ça. Donc les entreprises, si vous voulez, font en apparence un profit qui, elles ne remplissent aucune des fonctions de communication, d'investissement dans les brevets, etc. Et c'est surtout une économie non innovative, effectivement. Car c'est une économie où les entreprises considèrent comme normal de ne pas avoir à faire de la R&D. Donc elles incorporent des connaissances, mais ces connaissances, elles sont produites complètement en dehors et l'entreprise n'a pas. On a la réaction française qui est la même, à peu près la même chose. Le MEDEF a dit, normalement, hein, la règle d'attribution sur les 3% qu'on devrait faire de PIB, et à mon avis c'est ridicule, il faudra en faire 10, mais laissons 3% qui était le critère de Lisbonne, avec 1,5% pour le public, 1,5% pour le privé. En France, par exemple, depuis 15 ans, le public a fait ses 1,5%. Il les a fait. Le problème, c'est que le privé n'a fait que 0,5%. C'est-à-dire, ça fait 10 ans, 15 ans, que les grandes entreprises françaises, systématiquement, il manque un point de PIB par an. Alors, étonnez-vous si après, en termes d'emploi, c'est la catastrophe, c'est la délocalisation, c'est le produit de ça. Si on prend la Finlande, c'est 3,5-4%. La Norvège ou la Suède, c'est...
Comment on fait en privé ?
Bien sûr.
tout le monde finance. Non, non, Suède, ils ont été très violents, ils ont pris tous les jeux, et ils ont affecté autoritairement tout le produit de tous les jeux directement à financer la recherche. Ça change tout. Je veux dire que si on faisait ça pour une course de canassons et autres conneries, Joto et compagnie, je garantis qu'on ne serait pas à mendier 9 milliards sur les 26 milliards là, du plan de relance, et 9 milliards pour les universités de la recherche. Ça me fait rigoler. 9 milliards, c'est le pourboire pour le groupe. Parce que 9 milliards, ce n'est pas 9 milliards qui sont investis chaque année. C'est une dotation. La plupart de ces 9 milliards, ce sera une dotation des fondations d'université. Et donc, ce qui sera dégagé par an, c'est ce que rapportent ces intérêts. Comme le marché financier ne va plus rapporter 20% par an, parce qu'il y a un effondrement, vous aurez des sommes ridicules. Et c'est toujours la même question, c'est qu'en France, on veut bien investir dans des machines, dans du foncier, dans des bâtiments. Dès que vous dites qu'il faut investir dans la tête et dans des salaires, là, vous n'avez plus personne. Vous n'avez plus personne pour financer des doctorants, pour financer les trucs. Vous n'avez personne.
En France, ça veut pas dire.
Oui, mais en France, c'est une catastrophe. Ça atteint une catastrophe pour un pays qui prétend avoir des trucs. Résultat, les choses qu'on avait dans les grands projets sont le résultat d'investissements d'il y a 20 ans. Et les investissements en nanotechnologie maintenant, les investissements dans le dernier plan, il a fallu, d'ailleurs un ami d'Antoine, Henri Verdier, qui est à Cap Digital, il a fallu qu'il prenne deux esprits qui ne sont pas totalement débiles, qui sont Juppé et Rocard, il a fallu qu'il les prenne comme ça et qu'il les persuade qu'il fallait investir dans le numérique fortement et pas investir dans la Xème version des TGV et dans du lourd industriel. Alors que nous avons le plus fort taux d'exportation, la France exporte le plus grand nombre par rapport à sa population d'informaticiens vers la Californie. Nous sommes le mieux représentés en Californie. Pourquoi ? Parce qu'on a une très bonne école de mathématiques, parce que c'est évident que les Français ont des aptitudes à ces trucs logiques. C'est impossible en France, donc ils foutent le camp. Dans les dernières absorptions de start-up par les Américains, dans les pays d'Europe, quand ils absorbent des petites start-up, vous avez vu quelqu'un qui faisait ça pour le compte d'une énorme société américaine qui m'a expliqué. Dans la plupart des pays d'Europe, ils achètent les start-up, ils les maintiennent sur place. En France, ils les ferment. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent récupérer les informaticiens en Californie.
Culturellement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose avec la France où, qui culturellement a du mal à passer à une économie industrielle très hiérarchisée, à une économie digitale qui est beaucoup moins difficile à...
Bien sûr que oui, mais bien sûr que oui, c'est évident. C'est évident, on a un CNPF. Enfin, on a
une question de culture ou de politique ou...
Non, c'est une question d'hiérarchie. La France est un pays hiérarchique. Mais quand c'est pas la hiérarchie d'ancien régime qui a traversé la Révolution française, c'est la hiérarchie napoléonienne et centralisée. Entre les deux, on est vraiment mal doté.
Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de Français qui, à l'étranger, sont finalement...
S'épanouissent mieux. Et pourtant, c'est pas des gens qui aiment s'expatrier. Ouais. Comme les Japonais, les Français ont horreur de s'expatrier. Question bouffe, etc. Mais néanmoins, dans le domaine de l'informatique, c'est dramatique de penser qu'effectivement, on a loupé le préambule, que sur la question de l'invention de l'ordinateur, le PC, il a plutôt été inventé en France, et que ça n'a pas été foutu de se développer.
Mais il faudrait que ces gens-là, les Français, reviennent en France, alors pour un peu changer la...
J'en sais rien, il faudrait surtout... Par exemple, le TO7, il y avait partout dans les écoles, il se développait un truc formidable. Apple avait proposé d'équiper tous les ordinateurs Mac, tout le système français. Ça aurait changé tout. Thomson, pour protéger sa merde qui s'appelle TO7, qui est une vraie merde, a été installé autoritairement par Fabius, qui n'a pas seulement fait la connerie de s'en contaminer, il a fait cette fleur à l'industrie de fond. Thomson, c'est un fabricant de chaudron, de chaudronnerie et de locomotive, hein, c'est rien de plus. Donc, on a fait ça, le résultat, c'est qu'on a installé aux gamins, c'est comme le militaire, on leur a collé un TO7, ça a tué totalement les clubs d'informatique qui étaient en train de se développer, lesquels ont été tués par les profs qui les détestaient. Aujourd'hui en France, la moitié du corps enseignant d'écoles, des lycées, etc., une grande partie de leur truc s'est occupée à démolir Wikipédia. Alors quand on leur explique qu'une erreur dure 3 jours ou 3 semaines sur Wikipédia et qu'elle dure 7 à 8 ans sur l'Encyclopédia Britannica, que ça se renouvelle, etc., ils vous disent mais non, etc. Bon.
Il
y a la question de l'autorité. Il y a la question de l'autorité. Les gens ne veulent pas perdre l'autorité. Or, dans un système comme ça, l'autorité, c'est les pères. Les profs français réagissent très très violemment au fait qu'ils soient notés par les étudiants.
Il y a un point d'équilibre entre une société où l'autorité est
tomber, et le chaos.
Mais c'est pas le chaos, une société dans laquelle il y a une hiérarchie horizontale et pas forcément. Il y a toujours de la hiérarchie.
Oui.
Il y a toujours de la hiérarchie. Il y a de la hiérarchie de la qualité dans l'art, il y a de la hiérarchie dans l'université, il y a de la hiérarchie dans tous les trucs. Et rapidement, les groupes font les choses. Le problème, c'est une hiérarchie horizontale ou une hiérarchie verticale. Et ça, tous les gens ont été habitués à une hiérarchie top-down. Par exemple, en France, on ne comprend pas ce que c'est que le
bottom-up.
L'innovation bottom-up, c'est impossible. Au maximum, ce que Madame Parizeau va penser, c'est la boîte à idées pour les ouvriers un peu idiots.